Bonne semaine à tous et merci de choisir Radio Capi qui vous accorde la parole dans ce premier numéro de Paroles aux auditeurs de cette semaine. Le procureur de la Cour pénale internationale vient de requérir 30 ans de prison ferme contre Thomas Lubanga, l'ex-chef des milices en République démocratique du Congo, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette réquisition, rappelons-le, est tombée le mercredi dernier lors d'une audience publique. La CPI a prononcé la condamnation de Lubanga, qui a été finalement reconnu coupable d'avoir commis les crimes de guerre, d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans et de les avoir utilisés pour participer activement à des hostilités en République démocratique du Congo entre septembre 2002 et août 2003. Que pensez-vous de ce verdict? Est-ce le début des actions de lutte contre l'impunité en RDC? Notre standard est déjà ouvert et n'attend que vos réactions, témoignages et critiques. Appelez-nous au 081 890 6315 et rejoignez-nous également à notre courriel pa@radiocapi.net et vous pouvez aussi poster vos préoccupations sur notre page Facebook. C'était pour tout. Pierre et la Mégie et Sylvain Matondou réalisent cette émission et J.R. Lungimbo vous la présente sous la supervision de Nicole Gata. Bienvenue à tous.
Émission spéciale au Capi Service au village Montou ce mardi 19 juin 2012. Si je vous dis forêt artificielle, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est tout un projet de développement des habitants de Montou au plateau des Batéké. Des éleveurs aux agriculteurs, en passant par les maraîchers, Radio Capi s'intéresse à la vie des communautés rurales. N'oubliez pas, émission spéciale ce mardi 19 juin, de 9h à 11h, dans du Kinshasa. Au Capi Service, à votre service.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons associé à cette émission Maître Guy Mouchata, notre invité. Il est chargé de programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice conditionnelle. Maître Guy sera en ligne dans quelques instants, mais ouvrons cet échange de 57 minutes interactives avec un auditeur déjà en ligne et qui va lancer d'ailleurs le débat. Malonga, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, M. Perrault.
Voilà, c'est plutôt J.R. Lungimbo.
J.R.
Voilà, alors le procureur de la Cour pénale internationale vient de requérir 30 ans de prison ferme contre Thomas Lubanga, l'ex-chef de milice en République démocratique du Congo, accusé des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et cette réquisition, nous l'avons rappelé, est tombée le mercredi dernier. Que pensez-vous personnellement de ces verdicts? Et à votre niveau, vous pensez que c'est un début des actions de lutte contre l'impunité en RDC?
Oui, en tout cas, j'encourage d'abord la Cour pénale internationale de cette décision, puisqu'on ne peut pas controverser cette décision de la Cour. Mais je vois que Thomas Lubanga est déjà victime de la sanction de 30 ans. Mais, selon moi, je préfère. L'impunité ne va pas se terminer comme ça. Et si Thomas Lubanga nous confesse qu'il est condamné 30 ans, directement ici dans notre pays, particulièrement au Congo, l'impunité va s'achever. Non. Vous voyez, nous avons notre cas de Bosco Tangada, qui est sous mandat de cette même cour. Mais selon moi, je vois que la cour a obligé au gouvernement congolais de capturer Thomas Lubanga. Or, Thomas Lubanga se fait rebelle. D'où il a une force sur la part des choses. Selon moi, je vois que la cour, pour vraiment cesser l'impunité ou diminuer l'impunité au monde, dans tous les états que et la Cour a ses actions, il aurait fallu cette Cour ait son armée propre. Puisque s'il y a quelqu'un qui est recherché par cette Cour, c'est cette armée propre à cette Cour qui va s'acharger à chercher celui-là qui doit être condamné par cette Cour. Mais donner encore l'intervention à ce pays qui est victime de cette issue qui insécurise cet État, en tout cas, je vois que c'est accentuer encore donc les conflits et ça peut provoquer d'autres échecs par cette Cour. L'intégrité peut être déterminée. Comment le Rwanda, oui, verdict peut tomber, oui, c'est comme ça. Mais il y a d'autres qui peuvent être retrouvés par l'attaque de l'armée congolaise ici. Vous voyez comment est-ce que Romagambo devait être tombé, c'est toujours comme ça, c'est la guerre. Mais s'il y a eu une coalition de l'armée supervisée par la CPI, selon moi, je crois que peut-être il devrait y avoir une solution dès maintenant.
Malonga, vous êtes à Kinshasa, donc je retiens une chose, et surtout dans vos propos, la première phrase qui est sortie, vous dites Thomas Lubanga est déjà victime de cette entente, donc là nous allons apporter d'ailleurs une précision, c'est une réquisition, le procureur a requis 30 ans de prison ferme, mais il appartient maintenant au juge de pouvoir passer, donc de prendre le jugement en délibéré, et voilà, donc on attend encore s'il y a des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes qui pourraient d'une manière ou d'une autre, parce qu'il s'agit là d'une instruction à charge et à décharge. Malonga, merci d'avoir apporté cette contribution et nous rappelons que vous avez appelé de Kinshasa. Vano Tshilenge, vous êtes à Tshilenge au Kasaï oriental. Bonjour, Vano.
Bonjour, Julien. Bonjour.
Alors, Vano, vous avez suivi Malonga. Vano, vous avez suivi Malonga qui a salué de demain d'ailleurs ce verdict. Est-ce que vous aussi vous êtes favorable à ce verdict?
Oui, je suis favorable à ce verdict-là, mais si Lubanga était victime d'une justice de double vitesse, qui fait que quand il commettait des atrocités-là, il n'était pas seul, il y avait deux camps. Mais pourquoi seulement Lubanga et les milices ou ceux qui ne sont pas au pouvoir le cas de Memba, il a commis des crimes à Mbujima le 30 juin 2002. 2005, à Mbujima et avec le gouverneur Sango, et vous nous voyez que quand ils sont au pouvoir, ils ne sont pas suivis, mais c'est juste après que nous voyons qu'on est en train de suivre. Alors, je dis ceci. Lubanga, maintenant, après qu'il est condamné, c'est une leçon pour les autres, mais nous ne trouvons pas que c'est juste une leçon, parce que nous voyons qu'il y a toujours aujourd'hui, il y a M23, il y a toujours des histoires qui continuent à se faire comme ça. Donc, c'est ça mon indignation. Je trouve que ce n'est pas du tout une leçon, puisque nous voyons qu'il y a toujours des groupes rebelles qui continuent à œuvrer et à semer des erreurs et des seuils vis-à-vis de la population congolaise. Bon, maintenant, une question. Est-ce qu'il y a un moyen que Lubanga puisse faire appel? Et puis il sera incarcéré dans quelle prison?
Merci beaucoup, Vano, pour cette question. Nous aurons dans quelques instants, d'ailleurs, Maître Guy Mouchaka, qui pourrait éventuellement répondre à votre question si Lubanga, ou carrément la défense de Lubanga, pourrait interjeter appel ou revenir encore avec d'autres arguments. Mais nous tournons du côté de Crispin, qui est à Kisangani. Crispin, vous êtes avec nous. Bonjour, Crispin.
Bonjour, Gilles.
Crispin, êtes-vous également favorable comme Malonga et aussi Vano qui nous a appelé de Tshilenge au Kasaï oriental?
Oui, bien évidemment. Vous comprenez aussi d'abord que moi, c'est que personnellement, ça, je dirais, donc victime est aussi peut-être que moi au Kirer, parce que j'ai fait une tourisme pendant ces jours-là.
Donc vous étiez à Ituri pendant que les actes se commettaient à l'époque, en 2002-2003.
Ok, je connais bien tout ce monde, justement, le Banga et tous ceux qui sont là, les mêmes de l'Europe.
Donc vous jugez la réquisition du procureur correcte, juste?
Bon, je dirais pas tellement juste, je m'attendais être beaucoup plus de fermeté que ça.
Donc vous souhaitez plus de 30 ans, que le procureur puisse requérir plus de 30 ans de prison ferme?
Oui, je veux dire ainsi parce que d'abord, au départ, le charge requis qui est chez lui, il y avait qui en fait l'arrangement des enfants qui sont en France. Nous, en fait, qui avons vécu cette histoire de Turin, et même si vous voyez, même la bande, en fait, corrigée au juillet du sujet, et la Monique avait fait, c'est massacre qui nous fait mal, ce qui s'est passé. Il y avait carrément, en fait, qui pouvait tout faire quand il voulait. Cette histoire de l'arrangement de la France, ça, oui, c'est vrai, mais au-delà de ça, les gens entendaient beaucoup, c'était surtout les crimes communs. C'est moi à cette période. Et bon, ça, ça concerne si cela va arrêter l'impunité ici au Congo, je ne crois pas tellement. Parce qu'il y a aussi notre gouvernement qui a aussi sa part de responsabilité pour l'arrêt de l'impunité au niveau national. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une justice équitable et juste au niveau du pays. Et même un comportement digne de nos autorités qui sont au pouvoir. Je ne crois pas que l'impunité s'arrêtera.
Voilà, merci Tristan de votre réaction et nous retenons que vous êtes relativement favorable à ces verdicts de la CPI. Nous rappelons, vous qui nous rejoignez, que nous sommes en train de parler de cette réquisition du procureur de la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga avait été reconnu, donc vient d'être reconnu coupable par la CPI le 14 mars des crimes de guerre pour avoir utilisé des enfants soldats âgés de moins de 15 ans en 2002 et 2003 lors de la guerre civile en Ituri. Donc on est resté de la RDC.
Parole aux auditeurs.
081-890-63-15, c'est pour que vous nous rejoigniez dans cette émission et aussi nous apporter vos réactions, témoignages, critiques et pourquoi pas des préoccupations. Vous avez également l'opportunité de nous rejoindre sur notre page Facebook. Voilà, nous avons des réactions, mais donnons d'abord la parole à notre invité Guy Mouchata, qui est le chargé de programme au Centre international de justice transitionnelle. Avec lui, si nous allons aborder cette question sur l'impunité, donc il est chargé de lutte contre l'impunité. Guy Mouchata, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez sûrement suivi les trois interventions de tout à l'heure. La première, celle de Vano, qui nous a appelé, Malonga, qui nous a appelé de Kinshasa, et suivi de l'intervention de Vano à Tshilingi, au Kasaï oriental. Et enfin, la troisième intervention de Christian Kisangani. Tous saluent de demain la réaction ou la réquisition qui vient de tomber du côté de la CPI. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette réquisition pourrait et apporter quand même quelques solutions par rapport à la lutte contre l'impunité en RDC?
Bon, je pense que chaque procès qui se termine par la culpabilité de l'accusé ou du prévenu permet quand même de donner une certaine leçon à ceux qui sont tentés de pouvoir recourir à la France ou à la commission des crimes pour accéder une certaine parcelle de pouvoir. Donc, dans ce sens, nous pouvons évidemment croire que le procès Lubanga pourra avoir un impact sur les différents chefs de guerre qui tentent de pouvoir récupérer, d'utiliser des enfants soldats au sein de leur milice. Mais d'autre part aussi, il faut constater, comme on fait relever les différents auditeurs, que les crimes qui ont été retenus à charge de Lubanga ne représentent pas la totalité, je dirais, de méfaits et les préjudices qui ont été subis par des victimes. Et dans ce sens, on peut aussi estimer que l'impact de cette décision pourra être évidemment limité si on se met dans la perspective des victimes qui n'ont pas été toutes représentées en fait dans les cadres de cette procédure.
Alors, c'est signalant qu'il s'agit là de la peine maximale encourue par Thomas Lubanga, sauf si les juges estiment que les crimes commis étaient d'une extrême gravité. Alors, à ce moment-là, les juges peuvent alors prononcer une peine de réclusion. Donc, ça peut aller par rapport aux circonstances aggravantes.
Oui, en fait, les juges ne sont pas tenus par la réquisition du procureur. Le statut de Rome prévoit donc, à part une peine à temps, et dont le maximum est de 30 ans, le statut prévoit aussi qu'une personne peut être condamnée à une peine à perpétuité. Et dans les cas d'espèce, si les juges estiment que les cas de Lubanga ou sa situation personnelle et les crimes commis et la situation des victimes tous les faits qui sont prévus, toutes les circonstances qui sont prévues dans les statuts, qui font que l'on puisse prononcer une peine à perpétuité, les juges le feront. Mais dans les cas d'espèce, il s'agit d'une réquisition du procureur qui demande une peine à temps de 30 ans. Il a essayé de motiver, il demande cette peine pour lui qui est la peine qui est assez représentative de la culpabilité de Lubanga, non pas seulement vis-à-vis des victimes, mais aussi vis-à-vis des communautés de l'Ituri, vis-à-vis de la communauté nationale, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. N'oubliez pas que la Cour pénale internationale poursuit les crimes qui ont une envergure internationale, donc des crimes contre la communauté internationale, et dans ce sens, au nom de toutes ces communautés qui, d'après les procureurs, ont subi des préjudices par le fait que Lubanga a recruté les enfants et les a utilisés donc, dans les combattants. Donc, il requiert une peine de 30 ans. Il revient maintenant au juge, au regard de la motivation qui est faite par le procureur, au regard surtout des faits et de la manière dont ces faits rentrent dans le droit, de pouvoir décider si Lubanga sera, une peine de 30 ans ou de moins de 30 ans, ou voire même une peine à perpétuité.
Voilà, alors, nous soulignons, Maître Guy, qu'au travers de cette réquisition, donc, si je comprends bien votre intervention, cette réquisition, au travers de cette réquisition, le procureur de la CPI instruit donc les juges, instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire que cette demande du ministère public n'est qu'un moyen de droit, et comme vous le dites dans votre jargon, le juge n'a que sa conscience et la loi, donc, pour statuer, donc ça peut aussi changer, donc elle n'est pas directement liée à cette réquisition.
Bien sûr. On a vu aussi cela que dans la décision qui a été prononcée à l'égard de Lubanga, on a vu aussi que le juge, pour certains points, mettait en cause le procureur. Rien n'empêche que lorsque le juge statuera sur le cas et prononcera la décision, qu'il puisse aussi relever des failles dans la réquisition du procureur ou qu'il aille dans le sens de ce qui a requis le procureur. Dans l'un ou l'autre cas, le juge reste souverain, c'est à lui qu'il revient. En face de ça, c'est au regard du droit et des faits de pouvoir statuer. Donc la dernière décision, la dernière peine que comptera Lubanga, ce n'est pas la réquisition du procureur, mais plutôt, ce sera la décision que prendra le juge. Mais il faut bien noter que lorsque le procureur fait sa demande ou fait sa réquisition, il fait une motivation et le juge, n'est-ce pas, va statuer sur cette motivation pour décider de le suivre ou de changer.
Voilà, avant que nous puissions découvrir quelques réactions qui ont été postées sur notre page Facebook, rappelons que chargé depuis son entrée en fonction en 2003 de juger les auteurs présumés de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, la Cour pénale internationale basée à La Haye a lancé 20 mandats déjà d'arrêt au total, tous dans 7 pays d'Afrique. Alors le premier de ces mandats visait le chef de milice congolais Thomas Lubanga, accusé d'enrôlement d'enfants soldats. Alors ce ex-chef de milice venait d'être fixé sur son ressort depuis mercredi dernier.
Parole aux auditeurs.
Michel Ngongo dit ce verdict est mieux tombé car il va décourager tous ceux qui continuent à agir de la sorte. Cet avis est partagé aussi par Christian Masirika à Goma. Stéphanie Zawadi de Bukavu, nous saluons vivement ces jugements avec grande reconnaissance à la CPI. C'est un bel exemple à tous ces rebelles qui ne laissent pas la RDC respirer et tous ceux qui traitent les femmes comme des canards. Célestin Lomena à Kindu, je salue avec beaucoup de succès ces verdicts. Cela va donner la leçon aux autres chefs de guerre qui font des désordres. Nous demandons aux autorités congolaises de faire le mieux possible pour traquer aussi Bosco Ntaganda. Si je me souviens bien, Thomas Lubanga Dilo, ancien chef d'état-major des FPLC, aurait nommé Bosco Ntaganda à la tête de la branche militaire de l'UPC. Il pouvait aussi être à la CPI, mais le gouvernement fait semblant de ne pas mettre fin à cette rebelle, à ces rebelles qui fait souffrir la population de l'Est. Et voilà au moins les trois premières réactions que nous avons pu obtenir sur notre page Facebook. Nous revenons à vous, Guy Mouchata, tout en vous posant la question, comme on le sait, le procureur avait en ce temps également noté qu'il y avait dans cette affaire des co-accusés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que par cette réquisition, les co-accusés aussi sont concernés?
Bon, les co-accusés ne vont pas subir une peine. Les co-accusés ont été indexés dans la décision qui a été prononcée à l'égard de Lubanga, le jugeant coupable, n'est-ce pas, de la revanche de la construction d'enfants. Et maintenant, quant à la peine, au niveau de la Cour pénale internationale, il n'y a pas de jugement par défaut. Donc, cette dérogation ne prévoit pas que les personnes qui sont absentes puissent être jugées et punies. Donc, là, nous avons ces cas de figure au niveau de la législation nationale. Notre procédure prévoit qu'on puisse juger quelqu'un par défaut, mais au niveau de la Cour pénale internationale, cette procédure n'existe pas et par conséquent, donc les co-accusés ne pourront pas être condamnés.
Marc, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Marc.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Radio Capi vous accorde la parole. Que pensez-vous de ce verdict de la CPI?
Merci beaucoup. Nous pouvons essayer d'expérimenter ça avec ce qui se fait à l'est du pays pour ce moment. Malgré le verdict qui est publié, vous tous vous savez bien sûr qu'à l'est de notre pays, il y a des milices qui continuent à menacer. Pour moi, ce que j'essaie de voir dans toutes ces histoires-là, c'est que l'homme blanc a toujours eu une longueur d'avance par rapport au noir, dans le sens que l'homme blanc fait tout pour continuer avec les processus de néocolonialisation. C'est comme ça qu'il fait tous les efforts pour créer des organismes et regrouper les noirs partout. Qui donne à ces gens-là les armes? Qui avait tous ceux qui sont à l'est? Est-ce qu'on peut vendre à un individu celles des armes? Ce sont ces mêmes occidentaux qui financent ces gens-là pour faire ce qu'ils font et profiter des minéraux à l'est de notre pays. Et après, pour nous frapper, pour nous mettre de la cendre aux yeux, ils font tout ça pour essayer un peu de nous faire voir qu'ils sont en train de faire quelque chose pour changer. Moi, je pense que la Cour pénale internationale, vous avez d'ailleurs bien fait pour rappeler l'histoire. Combien de pays européens ont été convoqués? Donc, en Europe, il n'y a pas de gens qui commettent des crimes. Il y en a, mais pourquoi seulement en Afrique? Et tous ces gens-là qui sont... On a dit les autres là qui avaient ces 2 tonnes d'armes à l'est de notre pays. C'est ces armes-là, comment ils les obtiennent? Hein, donc, ce sont ces mêmes occidentaux qui font ces gens-là. Quand ils font leur bêtise, après, ils cherchent comment les protéger, comment les sécuriser et comment montrer aux peuples africains qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont pauvres, ils veulent aider les Congolais, ils veulent aider les Africains. Non. Pourquoi les États-Unis ne se trouvent pas dans les statuts de Rome? Et pourquoi tous ceux qui ont déjà été convoqués, ce ne sont que des Africains? C'est pour dire que ces mêmes gens-là savent comment continuer avec leur processus de néocolonialisation. Ils cherchent l'homme noir partout où ils veulent de se déraper. Donc, il y a eu des organismes qui ont été créés dans ce sens-là pour garder cette idée-là de colonialisation. C'est comme ça et qu'on a donné ce qu'on a rendu comme verdict pour Thomas Lubanga. Moi, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Si ça pouvait changer, c'est au moment où on l'avait arrêté que cela pouvait changer, au moment où Thomas Lubanga a été arrêté. Combien de milices se sont succédés à l'est du pays? Pourquoi il n'y a pas eu changement? Il fallait attendre seulement quand il y a un verdict que les gens puissent changer. Non, on pouvait changer déjà à partir du moment où on l'avait arrêté. Je pense que ça nous essayera de...
Ça n'apportera pas
à changer quelque chose.
Oui, merci Marc. Vous n'êtes pas favorable à ce verdict. Nous tournons du côté de Gershom. Qui est à Kapolowé, au Katanga. Gershom, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous réagissez comme Marc, qui n'est pas du tout favorable, en tout cas pas assez favorable, par rapport à ce verdict? Comment réagissez-vous?
Moi, personnellement, je suis content pour la sanction qui vient de tomber, mais j'espère signaler vraiment que cela ne va rien changer. D'autant plus que Thomas Lubanga n'est pas le seul qui commet les crimes contre l'humanité. Ils sont vraiment nombreux qui commettent des crimes, mais il y a ceux qui ne sont pas poursuivis. Il y a par exemple les cas de celui qui le faisait à l'Est, le poursuivi. Il y a un montant qui est tombé, mais jusque-là, il n'est pas arrêté. Il y a des blancs qui commettent des crimes, mais qui ne sont pas aussi poursuivis. Je ne pense pas que la sanction qu'on vient d'appliquer à Thomas Lubanga sera à la base de. Qui va nous confirmer que l'impunité va en faire prendre fin à l'Afrique et encore à la CPI. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas. Continuer, on n'est plus colonisé, on est un peuple qui est indépendant. Les gens ne doivent plus mettre dans l'air pétrin comme ils le font.
Merci beaucoup Gershom, et d'ailleurs par rapport à la préoccupation de notre ami qui nous a précédé, qui parlait de pays européens qui semblent ne pas être concernés par le statut de Rome, je crois que notre invité reviendra sur cet aspect des choses, mais nous rappelons qu'il y a quand même quelques pays européens qui sont concernés parmi les 121 pays qui sont des États partis au statut de Rome. Il y a Guy Moussata qui est là, mais nous avons également quelques réactions dans notre possession, Peter Mugisho, dit ceci, la CPI a bien réagi, mais les grands problèmes est que on ne fait que les mandats d'arrêt seulement aux personnes de l'opposition, alors que dans les gouvernements en place, on retrouve beaucoup de gens qui ont commis des crimes contre l'humanité et qui se déplacent librement et partout où ils veulent. Brunel Muzinga Daru, est-ce que la CPI est faite seulement pour les Africains? Notre invité répondra à cette question dans quelques instants. Mundo Luc Tambéré dit leur jugement prenne beaucoup trop de temps. Donc là, il lance quand même quelques critiques vis-à-vis de la CPI. Alice Kwinja Rubenga, quant au chef des rebelles rwandais FDLR, pourquoi la CPI a refusé d'émettre un mandat d'arrêt à la personne de Sylvestre Mandakumura en rejetant la demande avant même d'examiner les éléments de preuve? Christian Kibendeloa dit c'est une bonne chose que tous Congolais, d'ailleurs le souhaitaient bien avant. Cependant, plusieurs de ces gens, de ces cas, restent encore impunis, donc il faudrait que la CPI travaille aussi là-dessus. Sadrak Londé dit le verdict du procès Thomas Lubanga sert d'exemple, en tout cas, à Bosco Ntaganda qui veut se faire lui aussi chef de guerre. Guy Moussata, vous êtes avec nous, donc vous allez réagir dans quelques instants, tout en rappelant que 121 pays sont état partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale, et parmi eux, 33 sont membres du groupe des États d'Afrique, 18 sont des États d'Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe orientale, 27 sont des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Nous aurons beaucoup plus de précisions avec vous, Guy Moussata, sur la question derrière la préoccupation de Crispin et des autres pour savoir pourquoi seulement les Africains.
Chaque jour, la fréquence de la paix lie le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.com.
Vous qui nous rejoignez, bienvenue à Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. Nous avons en ligne Guy Moussata, chargé des programmes de lutte contre l'impunité au Centre international de justice transitionnelle. Guy Moussata, vous avez suivi tour à tour des interventions des uns et des autres. Comment réagissez-vous par rapport à aux auditeurs de tout à l'heure?
Bon, je pense que la plupart des auditeurs qui viennent d'intervenir essayent de mettre en cause le caractère, je dirais, international de la CPI, de son action, en alléguant que la CPI ne poursuit que les Africains. Je pense que cette perception n'est qu'une perception, je dirais, relative, dans la mesure où les statuts de Rome qui fondent la Cour pénale internationale, voilà bientôt 10 ans depuis que elle fonctionne, donc à partir du 2 juillet, la CPI totalisera 10 ans de son existence. Et les statuts, disais-je, est une convention, c'est une convention internationale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce sont les États qui sont les États souverains, ont accepté ensemble de pouvoir disposer d'un organe, d'une structure au plan international qui va lutter contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et aussi les crimes d'agression maintenant. Donc ce sont les États eux-mêmes qui ont signé une convention pour créer la Cour pénale internationale. Et vous l'avez relevé, le nombre d'États africains ne totalise pas l'entièreté des États signataires du statut de Rome. Ça c'est de un. De deux, les Africains qui sont la situation des pays africains qui se trouvent aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, pour l'essentiel de ces pays, ces chefs d'État de ces pays qui ont renvoyé la situation de leur propre pays devant la Cour pénale internationale. Ce n'est pas le procureur lui-même qui a décidé, n'est-ce pas, de venir intervenir, mais tous les États, pour l'essentiel, de cette situation que nous avons devant la Cour pénale internationale. Et c'est le cas aussi de la République démocratique du Congo. On a tendance à ignorer que c'est le gouvernement congolais qui a écrit à la CPI pour dire, écoutez, venez chez nous, parce que notre justice nationale, sortant d'une période de conflit, n'a pas la capacité de juger des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité, les génocides et ainsi de suite, qui ont été commis ici chez nous. Donc, dès ce point de départ, on constate que ce sont les pays qui, n'est-ce pas, sollicitent l'aide de la Cour pénale internationale, étant elle-même partie, n'est-ce pas, à son statut. De telle sorte, la Cour pénale internationale vient pour aider les pays. Et ce qui devait logiquement se faire, c'est quoi? Pendant que la Cour travaille, les États doivent prendre des dispositions pour renforcer la capacité de leur justice nationale. On ne peut pas arriver à une réelle lutte contre l'impunité en comptant seulement sur la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est censée poursuivre les cas, je dirais, les plus graves, les plus emblématiques. Mais tous les autres États qui restent doivent être pris en charge par la justice nationale. Et lorsque l'on constate que notre justice n'a pas les moyens de son action, n'a pas la capacité pour faire ce travail, évidemment, il devient logique qu'on se rende compte qu'une bonne partie des criminels courent encore. Et lorsqu'on considère aussi que nos institutions, que ce soit la Constitution, que ce soit les autres textes de loi, font, je dirais, en quelque sorte, allégeance à une série de dispositions qui consacrent, je dirais, l'impunité pour que les individus soient poursuivis, il faut arriver à réformer tout le système. C'est bien de dire, par exemple, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, nos pères les humanités n'opèrent pas dans le cas de ces crimes, mais lorsque on est concrètement dans la situation du Congo, on se rend bien compte que ce sont de véritables blocages. Et dans ce sens, on a préconisé de prendre une loi de mise en œuvre du statut de Rome. On a préconisé de créer une cour mixte, une cour spécialisée mixte qui serait capable de prendre en charge le contentieux de ces crimes, non seulement des crimes commis depuis 2002, mais aussi des crimes commis avant 2002, mais on ne voit pas réellement un engagement de la part de toutes les parties prenantes pour en arriver à pouvoir adopter ces textes de loi. Et que voulez-vous, lorsqu'il n'existe pas un cadre légal concret dans un contexte comme celui-ci, comment voulez-vous qu'on arrive à lutter réellement contre l'impunité? La lutte contre l'impunité, ce n'est pas des discours. La lutte contre l'impunité, c'est un engagement qui prend un État en place des mécanismes, des structures et en dotant ces structures des moyens humains ou des moyens matériels pour arriver à cette fin. Donc on ne peut pas continuellement dire seulement que c'est l'affaire des autres, les autres viennent nous coloniser, mais je ne sais pas cette colonisation se situe à quel niveau. Quand vous-même vous dites que nous sommes incapables de pouvoir lutter contre l'impunité, venez, puisque nous sommes incapables de nous aider à le faire, et ceux qui essayent de faire quelque chose, vous dites qu'ils ne font rien, ça ne changera rien, mais vous-même, vous ne faites rien. Vous voulez qu'on soit dans une sorte de cercle vicieux où rien ne bouge, rien ne tourne. Je pense qu'on devrait tirer l'exemple de ce qui se fait à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est une institution internationale qui a aussi ses défauts, tout comme notre justice nationale a des problèmes. Mais nous devons d'abord commencer par réformer notre propre justice nationale pour essayer de prendre en charge la bonne partie, n'est-ce pas, du contentieux et restaurer les victimes qui sont nombreuses en termes de millions dans leurs droits.
Oui, Maître Guy Moussata, les juges se penseront dans les prochains mois sur la peine appropriée à appliquer. La défense de Lubanga a le droit de faire appel de la décision, ça c'est clair. Mais alors, mais pourquoi est-ce que la date n'est pas encore connue? Aussi longtemps que la réquisition a été déjà, et la réquisition est tombée, mais la date pour le prochain, pour que le juge se penche sur la question, sur cette réquisition.
Le procureur a fait sa réquisition, mais il y a les autres parties au procès, il y a les représentants des victimes, il y a tous ceux qui portent à la procédure qui doivent aussi déposer leur déclaration. Et les juges prendront la cause en délibéré comme cela se passe et prononceront la décision le moment venu. Donc, je pense que il ne sert à rien d'être fait. C'est quelque chose qui va être fait. Le procès a déjà pris le temps.
Donc,
les normes sont comme quoi il faut respecter les règles d'un procès équitable. La réquisition du procureur est une étape. Les autres parties vont faire leur déclaration et à la fin, les juges vont se prononcer. Et je pense que nous ne sommes pas très loin pour pouvoir attendre la décision.
Oui, mais le statut de Rome ne prévoit pas un délai qui doit courir après, normalement, la réquisition?
Non, je ne pense pas, à ma connaissance, non. Sauf si je me trompe, ma connaissance, non. Il n'y a pas de délai légal du prononcé du jugement. Mais j'ai dit de mémoire. Je n'ai pas vérifié cet aspect de comment je vais assurer la chose.
081-893-15, c'est pour que vous participiez à cette émission et que vous puissiez nous faire parvenir vos réactions, suggestions, préoccupations et pourquoi pas les témoignages.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Ramazani qui est à Kindu. Ramazani, bienvenue à Parole aux auditeurs. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
C'est plutôt J.R. Lungembo qui est au micro.
Oui, merci, J.R.
Voilà, Ramazani, vous êtes à Kindu. Êtes-vous également favorable à ce verdict qui vient de tomber du côté de la CPI?
Ah, justement, je suis tout à fait favorable. Mais je voudrais savoir pourquoi l'invité a parlé à ce qui concerne le mandat d'arrêt ne concerne pas uniquement les pays africains, mais l'ensemble des pays du monde. Mais par rapport au mandat lancé au fils de Kadhafi, Seif Kadhafi, est-ce que c'est l'État libyen qui avait élaboré ce mandat ou pas?
Donc voilà, là vous posez la question, nous sommes dans le contexte congolais, pratiquement Thomas Lubanga qui a été donc le premier à être transféré à la haie. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le premier aussi à connaître d'ailleurs son sort. Je crois que la question doit être centrée sur Thomas Lubanga pour que nous ne puissions pas nous perdre, hein, Ramazani Akindou. Donc vous êtes favorable, est-ce que cette verdict pouvait constituer un début d'une lutte contre l'impunité en RDC. Voilà la plus grande question. Jean, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Jean.
Bonjour monsieur le général, c'est Balouchi, monsieur à la parole du député.
Voilà, êtes-vous favorable à cette décision de la Cour, disons la décision, la réquisition du procureur, et comment réagissez-vous par rapport à ça?
Ok, je vous remercie d'avoir m'avoir accordé la parole pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis tout à fait favorable à la décision de la Cour internationale de justice pour la condamnation de
Thomas Lubanga.
De Thomas Lubanga, bien sûr, c'est bien parce que cet acte posé n'était pas tout à fait bon. Mais néanmoins, moi j'ai des préoccupations. Aujourd'hui, c'est Thomas Lubanga, nous sommes d'accord, le monde est assez acclamé. Mais je pose une question. Qui avait amené les enfants que nous appelions les Kadogo? Aujourd'hui, où sont-ils, ces gens-là qui les avaient amenés? Parce qu'eux aussi, ils ont enrôlé les agents.
Et bien, la plupart ont été démobilisés.
Est-ce que Thomas Lubanga est-il le seul? Je ne pense pas. Et ceux qui sont restés, la Cour internationale de justice va les poursuivre aussi. Voilà des inquiétudes que j'ai. Mais moi, je souhaiterais à ce que cette justice ne se limite pas seulement à Thomas Lubanga. Que ça aille jusqu'au bout et qu'on ne puisse pas camoufler certaines personnes au détriment des autres. Voilà mon intervention sur le sujet.
Oui, merci Jean. Disons, on n'a pas l'intention d'ailleurs d'entrer dans les détails de références de statut de Rome, mais on note que la CPI statue sur les crimes commis, en tout cas après 2002, depuis son installation, donc en 2002-2003. Et là, quand vous parlez des cas de gauche, ça remonte un peu d'avant. Voilà, merci Jean d'être intervenu dans cette émission. Nous avons Guy Mouchata qui est au Centre international de justice transitionnelle. Mais avant de lui accorder la parole, nous allons terminer cette série de correspondances que nous avons tirées de notre page Facebook. Dans les cadres de la lutte contre l'impunité, la condamnation de Thomas Lubanga par la CPI a un impact positif dans la lutte pour la paix et l'instauration de la sécurité en RDC. La même décision devrait être prise contre tout malfaiteur dégradant la situation sécuritaire en RDC, notamment Bosco Ntaganda, qui doit comparaître. Ça, c'est une réaction des AG Manigbo de Goma. Elie Bariané, pourquoi Kigali et Kinshasa cherchent à nous faire oublier Kunda? Parce qu'il faut également exhumer, selon lui, donc, l'affaire Kunda, qui doit être aussi jugée auprès de la Cour pénale internationale. Galvani Tiouk, j'approuve la décision de la CPI, que je trouve juste et équitable. Elle aidera aussi d'autres rebelles à se convertir. Dona Micha de Kisangani, pour les uns, la CPI est à encourager, mais pour les autres, nous constatons que
que la CPI ne lance que des mandats verbaux. Les cas des semeurs de troubles à l'est de notre pays, les mandats sont souvent lancés, mais pas d'arrestation. Guy et Moussaka, voilà, à vous la parole.
Merci, monsieur le journaliste. Il y a d'abord nos amis auditeurs qui demandent si toutes les situations ont été renvoyées par des attentats. J'ai dit l'essentiel des situations. Mais vous avez les cas de la Libye et les cas du Soudan, qui sont des cas qui ont été renvoyés devant la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qu'il faut bien est que nos auditeurs comprennent la manière dont la Cour pénale internationale est saisie. Nous avons la première possibilité, c'est qu'un État qui est parti demande à la Cour de pouvoir intervenir dans son pays. La deuxième possibilité, c'est le Conseil de sécurité qui le fait. Au nom de la sauvegarde de la paix internationale, le Conseil de sécurité a ses pouvoirs de pouvoir renvoyer la situation dans un État devant la Cour pénale internationale. Et là, vous avez les cas du Soudan et vous avez aussi les cas de la Libye. C'est au mois de février 2011 que le Conseil de sécurité avait pris une résolution renvoyant la situation de la Libye donc devant la Cour pénale internationale. Et vous avez la dernière possibilité, c'est que le procureur de son propre chef peut décider de pouvoir intervenir dans un État parti. Une autre exception, c'est qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut ne pas être signataire, qui n'est pas signataire du statut de Rome, peut faire une déclaration disant que la Cour pénale est compétente pour la situation et l'appela à pouvoir intervenir. Donc, dès lors, vous comprenez que dans les cas qui concernent les États africains, si vous prenez la Côte d'Ivoire qui a fait la déclaration, vous prenez le Soudan et la Libye, qui sont des cas qui ont été renvoyés par le Conseil de sécurité, tous les autres cas ont été renvoyés devant la Cour pénale internationale par le gouvernement, par le chef d'État de ces pays. Alors, il y a un autre éditeur qui parlait de la situation des Kadogo. Je pense que vous avez un peu éclairé les problèmes pour dire que les statuts de Rome répriment les crimes qui ont été commis à partir de 2002. Mais la situation de recrutement des enfants soldats avant 2002 est aussi condamnable par des dispositions du droit international, du droit pénal international. Mais là, c'est une question de créer une juridiction spécialisée ou de pouvoir prendre une loi qui met en œuvre, n'est-ce pas, ces dispositions pour que nos juges, pour que nos juridictions soient capables de pouvoir réprimer ceux qui ont effectivement recruté des enfants avant la période 2002.
Dans cette série des auditeurs, donc des réactions des auditeurs, nous allons prendre deux auditeurs qui sont déjà en ligne. Étienne qui est à Guémena et Salomon en Bandaka. Bonjour Étienne. Étienne, bonjour.
Ah, bonjour à tous, papy, et bonjour à tous les auditeurs de la RDC et CD Guémena en particulier.
Alors, Étienne, comment réagissez-vous par rapport au sujet que nous abordons aujourd'hui sur la réquisition du procureur par rapport à Thomas Lobanga, par rapport à la peine qu'on demande auprès des juges?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Ma perception est un peu mitigée par rapport à la position du procureur sur l'affaire Thomas Lobanga. Premièrement, je veux dire que c'est bon parce que c'est pour décourager les anti-valeurs, comme mes prédécesseurs venaient de le dire. Quand les arrêts se donnent de cette façon-là, bon, ça décourage les anti-valeurs, ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ainsi de suite. Mais là où je ne suis pas tellement d'accord avec la CPI, c'est que, monsieur le journaliste, vous comprendrez que d'ailleurs les auditeurs ont dit les personnes du colon. C'est une cour qui est créée particulièrement pour arrêter les dirigeants qui sont influents, les influents dirigeants africains. Ça, c'est évident. Bien que l'invité venait de dire que non, il y a ceci, il y a en Amérique latine, des pays qui l'Afrique. Mais jusqu'alors, est-ce que l'invité peut nous dire qui sont les prisonniers ou les gens qui sont arrêtés à la CPI qui sont en Afrique? Je ne sais pas si la CPI a de pareils gens qui détient. Deuxièmement, le temps que le procès prenne, vraiment, c'est on n'arrive pas à comprendre. C'est une haute cour, et une cour à caractère international. Mais imaginez-vous le problème. Prenez, si nous prenons le cas Thomas Ban a profité combien d'années pour qu'on puisse aujourd'hui dire tout ce qu'on a en train de dire sur lui. Quand vous prenez le cas Bemba fait combien d'années et jusque-là, on ne continue qu'à faire des réquisitions, écouter les témoins, ainsi de suite. Maintenant, on dit la Cour suprême, la Cour internationale, la CPI, il faut arrêter Bosco, Tagana, tout cela. Mais nous voyons que c'est comme on est en train d'héberger seulement les gens là-bas, au lieu de faire la justice. Parce que je ne sais pas si le procureur, s'il a des données par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport aux accusations, mais je ne pense pas que 2, 3 ou 4 ans, le procureur ne peut pas prendre cela. Donc, quant à moi, je voudrais suggérer à ce que l'actuel procureur puisse vraiment corriger les défauts de son prédécesseur. Qu'il puisse un peu voir dans quelle mesure les procès peuvent être activés, de faire que les choses aillent de l'avant et qu'on puisse sanctionner objectivement. Que les sanctions soient objectives, qu'on sache que vraiment telle a mérité telle sanction, ainsi de suite. D'arrêter les gens et les faire streamer à la CPI et
Oui, Étienne, nous retenons que, disons, la lenteur administrative ou dans les traitements des dossiers au niveau de la CPI vous inquiète énormément. Salomon Ambandaka, est-ce qu'il a le même avis? Est-ce que Salomon est favorable à cette réquisition du procureur de la CPI condamnant Thomas Lubanga ou, disons, déclarant Thomas Lubanga coupable de peine de 30 ans de prison ferme? Salomon, vous êtes Ambandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Villard.
Salomon, comment réagissez-vous par rapport à cet édit?
Moi, je suis vraiment d'avis par rapport à cette condamnation. Il l'a mérité, il faut nécessairement être condamné pour manifester quand même qu'il y a une justice dans le monde. Et j'ai une préoccupation, c'est ce que je voudrais poser à l'invité. J'aimerais un peu savoir, il y a un principe latin selon lequel non quis lidem. Alors, quand il dit que la partie de Fanderes peut interjecter à terre, la défense de Thomas Lubanga peut interjecter à terre, et quel coup va se faire sur cette affaire?
Merci beaucoup, Salomon. Nous retenons cette question, mais tout en nous permettant d'ailleurs de lire aussi une réaction qui nous vient de Canada, à Ontario. Stevie Massella qui dit « Pour que ce verdict puisse s'inscrire efficacement dans le cadre de la lutte contre l'impunité, il faudrait une vraie réforme du système judiciaire. En RDC, la lutte contre l'impunité sera efficace seulement si nous arrivons à fonctionner avec une structure pénale organisée. » Elle implique la réforme des institutions suivantes, la police, notamment la police, le service carcéral et le judiciaire. Les mesures destinées à réformer le système judiciaire congolais ne pourront aboutir que si elles s'inscrivent réellement dans le cadre d'une stratégie globale à long terme qui doit être élaborée par le gouvernement en collaboration avec la société civile, les victimes et les acteurs clés de la vie congolaise. Stevie termine en disant que cette stratégie doit s'attaquer en priorité aux défaillances du système actuel qui ont été grandement négligées à ce jour et qui nuisent à la capacité du système à s'occuper des crimes graves au regard du droit humain et du droit international, dont les viols des femmes. Elle doit aussi supprimer les obstacles à la justice et à l'égalité devant la loi. Voilà. Alors, Guy Mouchata, nous allons revenir à vous dans quelques instants, tout en rappelant à nos auditeurs que nous allons continuer à attendre des standards d'arrêt ouverts. C'est le 081-890-6315.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net. Parole aux auditeurs.
Maître Guy Mouchata, vous êtes avec nous. Comment réagissez-vous par rapport à toutes ces réactions?
D'abord, une chose avant d'en arriver aux réactions, c'est que j'aimerais
que les auditeurs fassent une nette distinction entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice a pour justiciable les États. Ce sont les États qui réfèrent leur situation, par exemple, un problème de frontière ou un problème qui oppose deux États par rapport à l'occupation d'un territoire, et ces États vont se référer à la Cour internationale de justice. C'est cette cour qui siège aussi à la haie et antérieure à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a pour justiciable donc des individus et pour des questions d'ordre pénal, donc des infractions qui sont contenues dans les statuts de Rome. Ceci dit, l'un des auditeurs a abordé la question du délai raisonnable, donc du procès qui prend beaucoup de temps. Et je pense que lorsqu'on se réfère un peu à la situation devant les juridictions internationales, que ce soit le tribunal pénal international pour le Rwanda, ou le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ou les autres juridictions qui ont été créées par après, on se rend bien compte qu'il y a un des principes qui se met en œuvre qui est très important, c'est le procès équitable. Pour que le procès soit équitable à l'égard de toutes les parties et que les verdicts qui vont être prononcés par le juge ne puissent pas être contestés, à la fin, après l'appel, il faut nécessairement essayer de réunir suffisamment de moyens, que le juge s'imprègne suffisamment de la situation, analyse tous les moyens de preuve, que les parties réagissent par rapport à ces moyens de preuve qui sont développés par l'une ou l'autre partie, que ce soit la défense, les victimes ou les procureurs, et que si le juge puisse forger une conviction par rapport à cela. Je comprends bien que par rapport à notre système national, où nous avons des délais de procédure qui sont parfois assez serrés, particulièrement au niveau de la justice militaire, que les auditeurs ne comprennent pas cette nouvelle procédure. Mais il faut essayer de s'y habituer et de se rendre compte qu'il n'y a pas de lenteur pour lenteur. C'est vrai, tout n'est pas aussi, je dirais, justifiable. On sait que, par exemple, dans le cas du procès Thomas Lebal, c'est le premier procès de la Cour pénale internationale, pas de jurisprudence antérieure, donc la Cour a eu besoin de roder certaines de ses dispositions et cela a pu prendre le temps.
Mais,
permanente dans son action future pourra effectivement acquérir une sorte de jurisprudence et ainsi les deux procédures pourront être donc
accélérées. Oui, maître Guy, Moussata, on va vous accorder la parole pour conclure. Le temps de prendre le tout dernier auditeur qui n'a que 30 secondes. Alors, Rajabou, vous êtes à Kindou, rapidement. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Vous avez entendu, vous avez suivi les uns et les autres qui ont aussi donné leur point de vue. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
Mon point de vue, c'est que c'est une bonne chose, monsieur le président, comme ont accepté les autres les auditeurs qui m'ont précédé. C'est une bonne chose d'arrêter son âme banque par la suite. C'est une bonne chose.
Est-ce que ça va
arrêter pour Thomas Lubanga? Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que les violateurs sont partout, les violateurs des droits de l'homme sont partout, ils sont à l'est dans les rébellions.
Voilà, donc Rajabou, vous souhaitez, Rajabou, c'est que vous souhaitez que les autres là puissent être aussi poursuivis, n'est-ce pas?
Oui, voilà. Mais je voulais encore ajouter qu'ils sont...
Oui, rapidement, parce que vous n'avez plus assez de temps.
Je proposerai à la justice, tant nationale qu'internationale, de se dépasser, c'est-à-dire de ne pas être d'une justice à double vitesse, c'est-à-dire une justice télévisée.
Voilà, merci beaucoup Rajabou, Guy Moussata. Est-ce que la défense doit aller à l'appel ou exactement parce que selon un auditeur, la Cour pénale c'est déjà à la haute cour. Hein, et vous avez aussi 40 secondes, Guy Moussata.
Au niveau de la Cour pénale internationale, on a créé plusieurs juridictions. La Cour comprend des chambres. Vous avez la chambre préliminaire, la chambre de première instruction afin de juger l'affaire. Et une chambre d'appel. Donc, au moment où la chambre de première instance va se prononcer, la chambre d'appel va pouvoir juger nos soins de cet appel-là. Pour conclure, c'est simplement dire aux auditeurs que tous évoquent la nécessité de la lutte contre l'impunité. C'est quelque chose qui tient dans le cœur de tout le Congolais. Il faut que le gouvernement entende cette volonté de la population congolaise de voir les criminels être poursuivis et ainsi prendre la décision de pouvoir installer un cadre
légales qui permettent justement de poursuivre et de doter la justice des moyens nécessaires pour le faire.
Merci à vous, Maître Guy Moussata, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le chargé de programme de lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Et merci également à vous toutes et à vous tous qui avez suivi et participé avec attention soutenue à cet échange. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production et réalisation de cette émission. Titi Poutou, Pierre Lamégi, Nicole Ndaka et Sylvain Matoudou.
Allô? Allô? Mais qui ne répond pas?
Demain, parole aux auditeurs en marge de la journée internationale des réfugiés qui sera célébrée le mercredi 20 juin prochain, se penchera sur la question de savoir que faire pour prévenir l'augmentation des nombres de réfugiés et congolais. Votre commentaire, faites-le nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de le poster sur notre page Facebook. À tout de suite.